France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous, c'est une voix de légende que nous vous invitons à écouter aujourd'hui, celle de la cantatrice Régine Crespin, qui était l'invitée de François Castan en 1995 dans l'émission Mémoire retrouvée. Dans le premier volet que vous allez pouvoir écouter aujourd'hui, Régine Crespin évoque avec son franc-parler les grandes étapes de sa carrière marquées par ses débuts à Bayreuth en 1958 avec le metteur en scène Wieland Wagner, petit-fils du compositeur.
Caspinette ou Caspinette, Caspinette, Caspinette tout court.
De tes chansons, et puisque l'on te dit de répondre, réponds.
Tra-la, la, 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 mon sacré, je le garde, et je le garde bien. Tra-la, la, 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 j'en aime un autre mort, en disant que je
Régine Crespin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez toujours eu cette voix?
La voix laquelle? Parler ou chanter?
La voix parler.
Oui, j'ai toujours eu une voix grave. Elle est devenue un peu plus grave avec l'âge, avec quelques cigarettes, il faut dire la vérité. Mais très longtemps, on me disait toujours bonjour monsieur au téléphone. Ça me gênait beaucoup dans les hôtels où je commandais mon petit déjeuner. Elle me disait quel est votre nom? Je disais bon, Mrs. Crespin ou Madame Crespin. Oh, pardon, pardon. Donc j'ai l'habitude qu'on m'appelle monsieur. J'ai toujours une voix assez grave. Ce qui m'ennuyait un peu parce que quand je parlais, ça me fatiguait. Et quand je chantais, je veux dire que je parlais grave, ça me fatiguait quand même un peu. Donc j'étais obligé de clore mon bec et de ne pas parler avant de chanter, comme tous les chanteurs d'ailleurs.
Alors quand on a cette voix grave, même enfant, même s'il était moins grave qu'aujourd'hui, et que l'on découvre, en chantant pour le plaisir, mais que l'on découvre un jour que la voix chantée n'est pas du tout la voix parlée, dans le corps, est-ce que physiquement, cela ressemble à une sorte, je dirais peut-être pas de viol, mais des surprises?
Non, parce que je crois que quand j'étais jeune, j'avais une voix moins grave quand même, parler toujours. Et je n'ai jamais fait, si vous voulez, la corrélation, le rapport avec la voix parlée, la voix chantée. Je n'y ai pas pensé, en fait. Ce n'est que plus tard, quand je suis devenue chanteuse et que j'ai fait mes débuts et que j'ai commencé à chanter sur la scène, que les gens me disaient, mais qu'est-ce que vous avez une voix grave, parlez. Donc là, j'ai réalisé que c'était vrai. Et puis, aussi en m'entendant, dans les interviews, dans la radio, ou à la télévision, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai une voix grave, c'est fou. Tous mes laryngologues, nombreux et variés, à Paris ou à New York, me disaient toujours, ne parlez pas ou parlez plus haut. Mais ça me paraissait tellement pas naturel de parler plus haut que je ne pouvais pas. Les laryngologues me disent toujours, vous parlez trop grave, vous fatiguez. Je vous dis, c'est pour ça que j'avais qu'une seule solution, c'est de me taire.
Thank you.
Dans votre livre, il y a déjà un personnage qui vous tient particulièrement à cœur. Vous dites, Zinglin, c'est mon rôle préféré. Pourquoi cette femme ?
Justement parce que c'est une femme, et qui est une charnelle, une tellurique, et bon, qui arrive de malheur, comme dans les opéras, il arrive toujours des malheurs à tout le monde. Mais le personnage lui-même me fascinait, me plaisait, me m'allait aussi, me convenait à ma voix, bien sûr, ça c'est le plus important. Et j'avais une tendresse particulière pour ce personnage, surtout pour la façon dont les lignes de chant sont écrites, qui sont, je répète, très féminines, très charnelles, je ne peux pas dire mieux. C'est une femme dans toute l'acception du terme. Et ça me bottait, ça me convenait.
Il fallait que vos héroïnes soient des personnages.
Au départ, je n'aimais pas trop des héroïnes qui n'étaient pas, comment dirais-je, qui ne réagissaient pas, ou qui pouvaient apparaître froides ou indifférentes, ou... Bon, il y en a peu d'indifférentes. Mais il fallait, pour ma part, que j'ai, comment dirais-je, un personnage à interpréter qui soit de chair et de sang, qui soit humain. Et sinon, je n'étais pas attiré par d'autres personnages, et en ce cas-là, je n'y chantais pas.
Est-ce que vous avez vu, Régine Crespin, dès le départ, la notion du théâtre à travers le chant, ou cela s'est fait au fur et à mesure de votre carrière ?
Cela s'est fait au fur et à mesure de ma carrière, oui, parce qu'au départ, bon, je ne savais pas grand-chose. Je n'ai pas été beaucoup aidé au départ, au début de ma carrière même, encore que si, quand même. J'ai fait mes débuts, mettons, à Mulhouse, où il y avait un directeur qui était aussi un très très bon metteur en scène, avec qui j'ai bien travaillé. Mais ce n'était pas si souvent que j'ai rencontré des metteurs en scène qui m'ont sorti de moi-même, jusqu'à ce que, en fait, jusqu'à 58, où j'aille à Bayreuth, et où j'ai rencontré Wilhelm Wagner, qui était donc le grand patron de Bayreuth, si je peux dire, et qui lui était un vrai metteur en scène. Vraiment, il avait un don, comment dirais-je, de deviner ce qu'il y avait au fond d'un corps et d'une âme. Et par exemple, dans mon cas, je chantais déjà du Wagner, mais je chantais ce qu'on appelle les Wagner blonds, c'est-à-dire des rôles qui étaient peut-être moins tourmentés, moins torturés que la Kundry de Parsifal qu'il m'a demandé de chanter au début. Ça m'a un peu suffoqué d'ailleurs, je me suis dit, il est fou ce type, jamais je pourrais chanter un rôle comme ça. Et au fond, c'est lui qui m'a fait découvrir le vrai... comment dire, toutes les possibilités scéniques qu'il y avait en moi et que j'ignorais un peu. J'étais une bien chantante, je jouais pas trop mal, mais enfin j'étais plutôt réservée, presque timide. Et lui m'a fait découvrir à travers ce personnage Kundry, qui est vraiment un personnage mythique, à la fois complet, féminin, sauvage, démon. Et c'est lui qui m'a vraiment fait découvrir toutes les possibilités que j'avais en moi, dans mon corps, dans mon être, de jouer des personnages comme ça.
Alors justement, vous êtes à Bayreuth en 58, mm-hmm. C'est la première fois pratiquement que vous chantez à l'étranger. C'est quand même un peu de la folie de commencer par à Bayreuth, presque. Et vous êtes en face de Wilhelm Wagner. Les répétitions scéniques commencent. Qu'est-ce qu'il vous dit ?
Je comprenais mal l'allemand à ce moment-là. Bon, j'avais une traductrice, une dame qui m'aidait à traduire. Mais... Ou bien il disait des blagues, par exemple, enfin des blagues, des choses drôles pour vous faire comprendre. Par exemple, au premier acte, quand Kundry rentre, elle se vautre par terre. Il me disait toujours, c'est une wild sow, une cochonne sauvage. Et je disais, mais pourquoi cochonne sauvage ? Et il m'a dit, parce qu'elle se traîne dans la boue par terre. Pour me faire comprendre que c'était vraiment une physiquement, enfin, une femme qui était vautrée par terre dans la boue, dans n'importe où. Ou alors, par petites touches, il vous suggérait, ou soit un geste, soit une expression, soit une virevolte rapide, ou un geste très lent. Et je veux dire, il ne vous imposait rien, il ne vous imposait pas un carcan au départ. C'était, je répète, comme un peintre, lui, il adorait la peinture, et c'était un très grand connaisseur en peinture. Et je répète, par petites touches, par petites couleurs, par petites coups de pinceau, il vous façonnait petit à petit, mais il n'était pas... un tyran, enfin, du tout. Il vous suggérait des choses.
Sa mise en scène elle-même était toute en suggestion.
Tout, absolument. Ça n'était jamais trop précis. Bon, ça avait fait une révolution quand il a commencé en 51 à rouvrir Bayreuth. Et il a fait vraiment des révolutions au point de vue scénique. Bon, maintenant, c'est dépassé. Maintenant, il passe pour un classique. Mais à ce moment-là, il passait pour un fou, on le sifflait. Même quand il allait saluer sur scène à la fin des représentations, on le sifflait. Il était très content d'ailleurs. Il disait, ça prouve qu'il réagit, et ça prouve que je l'intéresse. Sinon, s'il était fou, tiède, ça ne m'intéresserait pas. Mais c'était un révolutionnaire, c'est vrai, un rénovateur.
Les chanteurs rêvaient tous d'aller à Bayreuth. C'était un moment rare. C'était une réunion exceptionnelle de chanteurs du plus haut niveau, de chefs, avec Knapperbusch qui vous dirigeait. Comment se faisait le travail entre Knapperbusch aussi et Bernd Wagner? Parce que Knapperbusch était une sacrée personnalité.
C'était une sacrée personnalité, comme vous dites, et Wilhelm Wagner en avait un peu peur. Enfin, pas peur, enfin, il le ménageait. Et je sais que quand il m'a invité, donc, pour inviter une Française à Bayreuth, c'était un peu culotté quand même. Il ne le lui a pas dit jusqu'au mois de mai ou juin, je crois. Parce que Knapperbusch n'était pas très amateur de français. Il aimait la France, mais enfin, les Français, il avait une petite dent contre eux. Et quand il a su que c'était une Française, il était assez furieux. Donc, il était mis devant le fait accompli, puisque mon contrat a été signé. Et quand je suis allé répéter, bon, on passe pas tout de suite par les mains du chef d'orchestre. Je répétais pendant un mois et demi entre Wilhelm Wagner, bien sûr, et les répétiteurs, les coachs. Donc, je suis passé par les mains de deux répétiteurs différents qui m'ont, comment dirais-je, modelé, appris tout ce que je devais apprendre. Et quand je suis arrivé pour rencontrer Knapperbusch, je savais qu'il était un peu contre moi parce que j'avais compris que Wilhelm l'avait dit à mon mari. Et j'étais un peu morte de peur, donc il est venu répéter, ou je suis allé plutôt répéter avec lui. Il m'a demandé deux ou trois passages du deuxième acte, du début, de la fin, et puis il m'a dit « bon, ça va, je vous vois à l'orchestre ». Donc il a compris que je savais quand même bien le rôle, et donc on a fait des répétitions d'orchestre pendant une semaine ou 10 jours, je ne me souviens plus. Ça a quand même pas mal marché, il n'était pas follement enthousiaste au début, mais je dois dire qu'il m'a fait un des plus beaux compliments que j'ai pu recevoir, surtout venant de sa part, la quatrième année, puisque j'ai chanté 4 ans de suite. Il m'a dit « Madame Crespin, je crois que vous êtes la meilleure conderie que j'ai dirigée de ma vie ». Je suis resté suffoqué, je lui ai dit « Maestre, merci ». Il m'a dit « Ah, ça va, ça va ». Comme il était un peu bougon comme ça, mais c'était un sacré grand compliment de sa part, je vous dis, parce qu'il n'importait pas les Français dans son cœur.
À cette époque, c'était pratiquement le début pour vous des rôles chantés dans la langue originale, puisque vous avez commencé avec tous les rôles chantés en français. Sur quoi a-t-il insisté au niveau de l'interprétation? Parce que vous aviez déjà cet univers allemand dans votre carrière.
Oui, je connaissais bien sûr. Oui, je n'avais jamais chanté, je crois, en allemand jusque-là. Si, j'avais peut-être chanté. Non, c'est plus tard que j'ai chanté à l'opéra le Tannhäuser, moitié français avec les chœurs et moitié allemand avec les autres artistes. Mais vous parlez de ce qu'il m'a demandé, lui, Knapperbusch. Une fois, je lui ai avalé, je me suis trompé d'un thème à l'autre, j'ai avalé une page et demie. Et là, je dois dire qu'il était un peu surpris. Bon, c'est à Bayreuth, personne ne se trompe. Et surtout que je le savais comme parfaitement bien. Mais ce soir-là, il s'est... Bon, vous savez qu'à Bayreuth, on ne voit pas les chefs, puisque la fosse est totalement couverte. Il dirigeait donc assis en bas de chemise. Et là, quand je me suis embarqué dans la page d'après, enfin bon, je me suis rabiboché en deux minutes et j'étais rétabli. Mais lui, il s'est dressé, en faisant signe d'attention, et puis j'ai repris, il m'a dit bon, d'accord. Mais pendant 4 ans, chaque fois qu'arrivait ce passage, 2, 3 mesures avant, 4 mesures avant, il se dressait, il sortait un mouchoir de sa poche et il m'a brandissé le mouchoir en l'agitant, me donnant de me dire attention, ne vous trompez plus. Évidemment, je ne me suis jamais pu tromper. Chaque fois que le passage était fini, il me donnait un grand coup comme s'il avait eu une casquette, un grand coup de sur le front, comme s'il avait sa casquette pour dire merci. Donc c'était un petit jeu entre nous. Mais sinon, non, bien sûr, je ne me suis jamais plus trompé. Je crois que si je rechantais, je ne me tromperais plus de ma vie.
Avant c'est d'arriver à Bayreuth, ce fut la carrière en France. Marseille, Nice, Nîmes, Vichy, tous les théâtres de région où vous avez appris votre métier. Il est vrai qu'à cette époque-là, tous les rôles se chantaient en français. Et c'était une période un petit peu, entre guillemets, de routine dans le monde musical.
Oui, c'est vrai. Remarquez qu'on commençait quand même à chanter les choses en italien si ça se trouvait. Par exemple, j'ai fait des représentations de Tosca et d'Otello avec Del Monaco. Et là, on chantait en italien. Donc, j'avais déjà chanté des choses en italien. C'était pas... Mais c'est vrai qu'on chantait beaucoup d'ouvrages en français, même des ouvrages allemands ou italiens en français. Au fond, on a commencé vraiment à chanter les choses totalement dans la langue originale à partir de 60, 61, je pense. Par là. Mais pour moi, par exemple, l'univers allemand était une énorme découverte parce que c'était d'abord une langue qui était à l'opposé de mes origines latines, enfin italiennes, moitié italienne et française. C'était une vraie découverte pour moi et ça a été difficile parce que l'allemand est difficile à apprendre. Bon, j'ai quand même appris l'allemand avec la grammaire, enfin, avec les déclinaisons pour quand même apprendre, comprendre, essayer de comprendre la langue mieux que ça. Mais ça m'a ouvert même des horizons. La langue allemande est riche en rebondissements, en notes appuyées, enfin, choses appuyées ou pas appuyées, avec des descensions et des rebondissements que n'a pas le français. J'étais un peu familiarisé avec ça, avec l'italien aussi, qui est une langue tonique, enfin... Mais l'allemand m'a vraiment découvert des choses, et même vocalement, je répète, ça m'a apporté, ça m'a fait découvrir des horizons nouveaux pour la voix elle-même, pour les couleurs de la voix. Et j'ai surtout découvert ça quand j'ai commencé à faire des récitals avec des leads allemands. Ça m'a vraiment ouvert, je répète, des horizons vocaux que je ne soupçonnais pas. Wagner a beaucoup ce qu'on appelle des allitérations. Bon, c'est des choses qu'on découvre, ce que nous n'avons pas tellement en français. Et qui vous propulse la voix et qui motive des expressions vocales qu'on ne peut pas avoir en français. Ça, c'est très important. Et puis, bon, ça a été écrit sur le texte allemand avec les toniques, les temps forts sur des syllabes qui sont des temps forts en allemand. Alors que pas forcément en français. C'est d'ailleurs pourquoi c'est tellement difficile de traduire un opéra. Parce qu'il faut que les temps forts tombent sur les temps forts de la langue. Et ça, c'est pas évident.
Régine Crespin, dans les années 60, vous étiez un drôle d'ovni quand même. Parce que vous étiez, hormis peut-être avec Gabriel Baquet, la seule chanteuse française qui faisait une carrière internationale. Comment, non pas en tant que femme chanteuse, étiez-vous reçu l'étranger? On devait se dire, pourquoi il n'y en a qu'une?
Bonne question. Ben oui, parce qu'au fond, au départ, quand j'ai commencé à aller à l'étranger, on ne m'invitait pas forcément pour un ouvrage français. Mettons, j'ai fait mes débuts à la Scala avec un ouvrage italien, la Phèdre de Pizzetti, puis Tosca, puis Valkyrie en allemand. Bon. Quand j'allais en Allemagne, je chantais des ouvrages allemands. Au Met, à New York ou ailleurs, je chantais des ouvrages pas forcément français. J'en ai fait aussi après. Mais au départ, je crois qu'ils m'invitaient, mettons, quand c'était des Wagner, parce que j'étais à Bayreuth, que j'avais eu des critiques dithyrambiques qui se sont dit, bon, si elle va à Bayreuth, ça va être intéressant. Ou bien pour des ouvrages italiens. Mais ce qui fait que moi, française, si vous voulez, j'étais obligée d'aller me bagarrer, si on peut employer ce terme, sur le terrain des autres. Quand j'allais en Italie, je me bagarrais, si vous voulez, sur le terrain des italiennes, puisque je chantais des ouvrages italiens ou allemands en Allemagne. Alors que les chanteuses, disons, italiennes ou allemandes ne venaient jamais chanter du français en France. C'est très rare. Et je crois que c'est un peu ça qui était à la fois mon originalité et presque un handicap. Parce que quelqu'un qui est italien, qui ne va vendre que son terroir italien et sa musique italienne et son chant italien, est dans un sens plus fort, plus limité si vous voulez, mais plus fort. Alors que moi, je n'avais pas assez d'ouvrages français à exporter pour n'imposer, si vous voulez, que le répertoire français. Mais d'un autre côté, ça me satisfaisait beaucoup mieux de chanter à la fois de l'allemand, de l'italien ou de l'anglais, quelquefois en anglais, ou du français. Je suis quand même une des premières qui a pu sortir, enfin qui a pu chanter les Troyens, Iphigénie, Pénélope, quoi d'autre, la Damnation. Damnation, on le donnait pas mal quand encore. Mais Iphigénie, les Troyens, c'était absolument pas connu. Et c'est quand même moi j'en suis vraiment fière et contente d'avoir pu le mettre un peu au goût du jour et l'exporter.
Yeah.
Régine Grespin, vous parliez de ces rôles que vous chantiez en territoire entre guillemets conquis. Mm-hmm. Il y en a un qui a été un petit peu une sorte de carte de visite pour vous, c'est la maréchale. Comment expliquer que ce personnage ait été si souvent le premier rôle que vous interprétiez dans un nouveau théâtre ?
C'est presque tout le temps, j'ai pratiquement fait mes débuts partout dans les villes étrangères, 9 fois sur 10 avec le Rosenkavalier, je ne sais pas. Pourquoi ? Bon, c'est un rôle que j'aimais beaucoup, qui m'allait bien, je dois dire la vérité, que je sentais bien, qui... Peut-être qu'il n'y avait pas tellement de maréchal à l'époque, il y avait Schwarzkopf, bien évidemment. Lisa Della Casa, oui. Je sais pas, j'ai peut-être arrivé à un moment où il y avait une place à prendre. Et comme j'ai commencé à le chanter à Vienne, à Grenoble, à Berlin, un peu partout, on a su que j'existais, que c'était un rôle qui me convenait. Et même quand, par exemple, le maître m'a fait l'appel du pied pendant des années, il me proposait la première fois Faust. J'ai dit non, je ne veux pas chanter Faust pour mes débuts-là. Après, ils m'ont proposé Les Noces de Figaro. J'ai dit non, j'ai chanté, mais ce n'est pas vraiment mon vrai répertoire. Et M. Bing commençait à s'impatienter. Il disait, mais qu'est-ce qu'elle veut? Et finalement, bon, ils ont eu l'idée de m'offrir le Rosenkavalier. J'ai dit, là, bien sûr, j'y vais en courant. Et donc, si je pouvais, au bout d'un moment, non pas imposer, mais enfin suggérer que peut-être c'était un rôle qui me convenait, j'essayais de lui dire.
C'est un rôle qui est difficile à cerner parce que cette femme est jeune, en fin de compte, elle a 30 ans.
Elle a 33 ans, mais si vous voulez, pour l'époque, on était vieux plus tôt, enfin vieux, vieillissant plus tôt. Donc disons que ce serait comme maintenant une femme de 45, 48 ans, 50 ans, si vous voulez, pour l'époque. Donc elle était ni vieille, ni laide, ni repoussante, pas du tout. Elle était très simple, très séduisante, enfin c'est une femme ultra féminine, avec beaucoup de classe. Mais elle sentait quand même que l'âge allait venir, comme une femme maintenant, disons, qui est autour de la, passer la quarantaine, entre 40 et 48 ans. Bon, ben elle se dit, ça va venir. Donc c'est ça qui est le vrai le ferment de ce personnage. C'est ça, quoi, parce qu'elle sent venir la vieillesse, qu'elle, bon, elle dit où sont les neiges d'antan, et elle sent aussi que le jeune amant qu'elle a, qui n'est probablement pas le dernier, mais enfin bon, avec qui elle a eu une aventure très passionnelle, est jeune, il a 20 ans, 22 ans, je ne sais pas quel âge il a, le petit quinquin, mais et qu'il va s'échapper, qu'il va trouver quelqu'un de plus jeune, et c'est ce qui se passe, et comme elle a une attitude très, très grande dame, elle lui en fait cadeau de la petite Sophie malgré tout. Donc c'est encore un geste, mais en fait c'est pas facile quand même tout ça pour elle. Ça n'est pas facile ni à faire, ni à admettre, ni à... Et ça la fait souffrir quand même. Donc c'est ça qui est intéressant dans son personnage, c'est cette femme qui est une maréchale, enfin une femme de grand de rang, et qui est traitée par Strauss et par Hofmannsthal comme une simple femme, un être humain qui souffre, qui a des chagrins, qui a des amertumes, qui a des regrets, des peurs. Et c'est ça qui est extraordinaire sous ce dehors très grande dame, très Louis XV, perruque blanche, si vous voulez, grand standing. Il y a l'être humain derrière, et ça, il faut le faire passer, parce que si on ne le fait pas passer, on rate la chose. J'ai chanté, bon, j'étais très jeune, je crois que j'avais 27 ou 28 ans la première fois que j'ai chanté en France, c'était à Marseille, je crois, en français. Et les critiques ont dit, oh, elle sera une formidable maréchale dans 5, 6 ans, 10 ans. Mais elle était un peu jeune, c'est vrai que j'étais trop jeune. Mais cela dit, même si j'étais trop jeune, même si ça, c'était pas ce que ça a été plus tard, j'ai tout de suite été captivé par le personnage et par l'opéra. J'ai jamais eu de hiatus entre elle et moi.
Régine Crespin, il y avait une autre maréchale que vous admiriez beaucoup, que vous avez rencontrée au Metropolitan Opera, je crois.
Schwarzkopf ?
Lotte Lehmann.
Ah, Lotte Lehmann.
Qui vous a mis en scène.
Elle était invitée pour mettre en scène les trois personnages, les trois rôles des trois femmes, donc de la maréchale, Sophie et du chevalier, qui est une femme, donc chantée par une femme. Et donc elle ne voulait faire la mise en scène que pour ces trois-là. Et bon, avec les deux autres, ça a très bien marché aussi, mais comme c'était son rôle préféré, la maréchale, avec moi, on a eu des rapports très, très, très étroits. D'abord, c'est une femme extraordinaire, d'une gentillesse, d'une générosité, d'une simplicité. Elle était vraiment chouette, 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 je ne peux pas dire mieux. Et donc on a travaillé, on a eu un petit différend pour la fin du premier acte. Moi je voulais donc le faire comme je le sentais, puisqu'elle est toute seule devant son miroir et qu'elle se laisse aller à pleurer. Et elle me disait, mais non, elle est toujours la maréchale, il faut qu'elle reste debout. Je dis, mais non, l'autre c'est au troisième acte, oui, il y a du monde autour, donc elle se tient bien. Mais au premier acte, elle m'a dit... Bon, ben, vous faites la générale comme vous le sentez. Si vraiment je ne suis pas d'accord, promettez-moi que vous changerez. Je lui dis absolument. Et puis elle est venue à la fin du premier acte en pleurant. Elle m'a dit, vous changez rien du tout, c'est extraordinaire. Elle m'a dédicacé des livres, des disques, avec des choses qui m'ont fait d'abord plaisir et presque rougir, parce que c'était vraiment une femme extraordinaire. Je veux dire, elle avait laissé un souvenir formidable à New York. Je veux dire, quand elle est venue saluer à la fin, après la première, oh, le public du Met lui a fait un accueil pendant 5 minutes debout, et vraiment il l'adorait. Mais cela dit, elle a eu un geste extraordinaire. Elle a dit, Monsieur Bing, lui disait, vous allez saluer toute seule. Elle a dit non, si je vais saluer seule, je ne veux pas, je n'irai qu'avec une personne, la maréchale. Alors, Bing a dit, est-ce que vous voulez aller? Évidemment. Donc on est rentrés toutes les deux en scène, et bon, les gens applaudissent la nouvelle maréchale, l'ancienne maréchale, et on les pleurait comme deux fontaines. Et c'était un moment vraiment émouvant que je n'oublierai jamais.
Il y a une production, je crois, du Chevalier qui vous a peut-être moins enthousiasmé, donc regardez un souvenir peut-être moins bon, c'est celle faite avec Carl Böhm. Il semblerait que vos rapports avec Böhm étaient difficiles.
Il n'était pas bon du tout, parce qu'il avait eu l'année d'avant une autre maréchale, je crois que c'était Rizanek, je crois qu'il adorait, comme je le comprends. Et je ne sais pas, il n'y avait pas d'atome crochu, moi je le trouvais très sec, très dur, très pas du tout souple, enfin pas. Je sais que c'était un grand chef d'orchestre pour qui j'avais beaucoup d'admiration, mais avec moi il n'y avait pas du tout de rapport, pas du tout de contact, et je sentais qu'il ne, je lui étais pas sympathique. Alors j'ai souffert parce que malgré tout, bon, il y a une barre de mesure, c'est écrit avec une certaine précision, une partition, mais malgré tout il y a des moments où on peut laisser l'interprète aller un peu plus lentement, un peu plus vite, un petit détail près. Et lui était intraitable. Non, il n'y a pas de ralentendre. J'ai dit, mais maître, il y a quand même une chose d'humanité ou de souffrance. Non, 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 il ne voulait pas me laisser faire ce que je voulais. Et c'était vraiment dur. Je crois que c'est une des rares fois où j'ai chanté avec un grand chef tel que Böhm. Et où ça n'a pas marché. C'est la seule fois où j'ai chanté avec lui. Je regrette dans un sens que je ne sais pas ce qui a fait ça. Peut-être que ça vient peut-être de moi, je ne sais pas. En tout cas, c'est dommage. Mais on se sent vraiment brimé. On se sent, empêché de donner son âme librement, de donner son interprétation, son cœur. On est obligé de penser au chef et de se dire, ah bon, là, il veut pas que je ralentisse. Ah ben oui, il va plus vite. Puis quelquefois, ils font pas de cadeaux. Ils vont vite, ils passent et puis ils vous laissent pas ralentir. Alors ça, c'est vraiment, c'est stressant.
Tosca, c'est un personnage qui vous a, on peut dire, beaucoup marqué. Mais il y avait une autre Tosca en même temps que vous. Il y avait Callas.
Oh, il y en avait plusieurs, il y avait beaucoup de Tosca. Vous savez que quand Callas est revenu au Met à New York, après des années d'absence, M. Bing avait programmé une série de Tosca. Il y avait 14 représentations de Tosca, mais Mme Callas ne pouvait faire que les deux premières. Donc il s'est gratté la tête en disant comment, à qui je vais donner les autres Tosca, c'est difficile. Alors il a dit, bon, combien il y a de chanteuses qui peuvent chanter la Tosca? Il y en avait 7. Il a dit, c'est parfait, j'en donne 2 à chacune, comme ça on n'en parle plus. Il n'y aura pas de jaloux parce qu'il ne voulait pas prendre une seule Tosca pour succéder à Mme Callas et qu'elle fasse toute la série. Donc il a fait ça. Et puis il y avait le fameux, ce qu'on appelle le broadcast, c'est-à-dire la représentation qui est retransmise dans tous les États-Unis jusqu'au Canada, qui est très courue, qui est très demandée. Et Callas n'était déjà non plus là quand le broadcast était programmé. Et il a dit, à qui je vais donner ça? Je vais fâcher, il y avait Thébald, il y avait Rizanek, il y avait Nilsson, il y avait je ne sais plus qui. Il a dit, oh, ben, je vais le donner à la petite dernière, comme ça, elles feront pas de crise de jalousie. La petite dernière, c'était moi, puisque je venais de débuter 2 ou 3 ans avant. Donc c'est moi qui ai hérité du broadcast. Donc je vous dis, des Tosca, il n'y en avait pas qu'une, il y en avait beaucoup sur la planète.
Alors c'était qui cette Tosca pour vous?
Ben, Tosca, c'était rôle de femme féminissime, par excellence, qui présente un intérêt parce que ça montre toutes les facettes d'une femme, toutes les sentiments, les réactions d'une femme qui est amoureuse, qui est cantatrice elle-même, donc célèbre, adulée, qui est jalouse, gentiment au début, mais qui se collette un drame vraiment horrible, puisque Scarpia lui fait une cour effrénée et qu'il lui met un chantage en main en disant que si elle consent, il sauvera son amant. Donc, je veux dire, ça passe par des tas de sentiments de toute une vie, presque.
Ce personnage, vous l'avez chanté très jeune, pendant presque toute votre carrière.
Oui.
J'imagine qu'il a dû changer durant ces 20 ans durant lesquels vous l'avez chanté.
Disons, jouer le Tosca avec M. Corelli, par exemple, qui était un ténor bon, ultra connu et très populaire, et M. Del Monaco, qui était aussi populaire, sinon plus que M. Corelli, c'était deux choses différentes, parce que Corelli ne pensait qu'à sa voix, son merveilleux physique, grand, mince, beau, et n'était pas très, comment dirais-je, très participant dans le jeu, alors que mettons, Del Monaco était vraiment, jouait bien, réagissait bien à tout ce qu'on lui proposait. Ça dépend aussi des Scarpia, bien sûr. Si vous aviez affaire à M. Tito Gobbi, qui était un merveilleux Scarpia, mais très égoïste, il faut dire la vérité, alors que M. Baquet, qui était aussi un autre, pour mon goût personnel, presque plus grand que M. Gobbi, était un acteur qui répondait, qui était presque un caméléon selon la Tosca qu'il avait en face. Et ça, c'est pour ça que ça peut changer votre approche d'un rôle.
Opéra vériste.
Très vériste. C'est tout à fait à l'opposé de la maréchale. Et c'était quand même un beau challenge de pouvoir jouer, disons, la maréchale du Chevalier de la Rose, qui est un personnage très, très, comment dirais-je, distingué, qui se tient de haut rang, enfin, de haute lignée. Alors que la Tosca, enfin, le personnage de Floria Tosca est un rôle de tripe, presque en viscéral. Donc c'est quand même très, très à l'opposé l'un de l'autre.
On va pas faire le tour de tous les rôles, parce qu'il y en a beaucoup.
Non, il y en a beaucoup, il y en a trop.
Il y en a deux autres aussi qui étaient quand même des sacrés challenges. C'était Sieglinde.
Et Brunhilde. Oui. Remarquez, franchement, mon rôle de prédilection, enfin que je préférais sur les deux, c'était vraiment Sieglinde. C'est un rôle que j'ai joué depuis le début de ma carrière jusqu'à la fin. Alors que Brunhilde, je ne l'avais accepté que parce que c'était Karajane, que parce qu'il n'y avait que 2 saisons au Festival de Salzbourg. Ce n'était pas un rôle que je voulais garder à mon répertoire. Je ne voulais absolument pas laisser Sieglinde, absolument pas. Donc c'était, si vous voulez, une incidence dans ma carrière. Brunhilde, c'est un beau rôle, bien sûr, et surtout le fait de l'avoir fait avec Karajane, qu'il a abordé d'une façon tout à fait totalement différente.
En quoi ?
Eh bien, parce que le rôle de la Brunhilde est une espèce de vierge, enfin une vierge guerrière, qu'on voyait plutôt jusqu'à ce moment-là comme simplement, bon, une vierge guerrière un peu insolente, un peu indifférente, un peu froide. Alors que Karajane voulait redonner ce côté humain qui existe quand même dans le personnage de Brunhilde. Et ça a fait un scandale, je me rappelle, de chanter cet ouvrage à Salzbourg, et même avec le disque avant qui est sorti, qu'on avait fait avant et qui est sorti au moment de Salzbourg. Les gens étaient un peu désorientés parce qu'ils disaient, mais c'est une Valkyrie de poche, c'est trop humain, c'est trop, c'est... Or, comme tous les précurseurs, elle était très en avance, trop en avance. Et au fond, n'a été réalisé ce qu'il rêvait, ce dont il rêvait, ce qu'il voulait faire, que peut-être 10 ou 15 ans plus tard par Patrice Chéreau à Bayreuth. Et j'ai vu cette trilogie à Bayreuth et je me suis dit, tiens, c'est vraiment ce que Karajane avait dans l'idée, de faire une chose beaucoup plus humaine et beaucoup des êtres qui sont des dieux, bien sûr, ou des demi-dieux, comme Sieglinde ou Brunhilde, et de montrer quand même le côté humain et le côté touchant même des personnages, comme Wotan aussi. Enfin, ça nous entraînerait trop loin.
Mais comment ça se traduisait dans l'orchestre, par exemple, de Karajane?
Ah oui, mais alors Karajane avait une chance, enfin, un atout dans son jeu, c'était le philharmonique de Berlin, qui est une fabuleuse phalange. et qui n'était jusqu'à ce jour-là jamais descendu dans la fosse. C'est un orchestre qui ne jouait qu'en concert sur la scène. Et ils ont apporté à cette orchestration, bon, qui peut être tonitruante, c'est la vérité, mais une sorte de son de concert qui était un son riche, bien évidemment, et superbe, et quelquefois tonitruant, mais qui était d'une qualité vraiment exceptionnelle. Alors ça a ajouté à son idée de rendre toute cette tétralogie, je vous dis, plus humaine, plus touchante, plus accessible. Moins loin, moins dans le Valhalla, moins perdu dans les nuages.
Donc la comédienne, la tragédienne que vous êtes, s'y retrouvait davantage peut-être.
Dans un sens, oui, enfin encore qu'on peut pas trop se rouler par terre. Enfin, je veux dire, c'est pas une mise en scène de Tosca, par exemple. Mais oui, moi, ça me bottait plus. Dans un sens, ça pouvait me mettre plus en valeur, étant donné que moi, j'étais une chanteuse, on a dit, enfin, ça m'est difficile de me définir, mais enfin, d'après ce que les critiques disaient, que j'étais une chanteuse plus féminine, plus humaine, plus touchante, plus humaine, je ne peux pas dire mieux. Donc, ça allait dans mon sens, si vous voulez. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il m'avait choisi, parce que quand il a parlé de la Valkyrie, moi, je pensais à Sieglinde, il a dit non, c'est Brunhilde. J'ai dit, mais maestro Brunhilde, je sais pas. Il m'a dit, mais si, vous allez voir, comme je veux le faire, ça vous allez, toutes vos qualités vont s'épanouir. Et c'était vrai. So kühn sie sich müden, die Bär sich keiner gewann. Gäste kamen, Gäste gingen, die stärksten zogen Stahl. Keinen Zoll entwich er dem Stamm.
Des critiques. Oui. Les critiques ont été, Régine Crespin, plutôt, du moins en France, vachard avec vous. Vachard, sinon agressif.
Oh, je voudrais répondre à une courte chose, c'est que nul n'est prophète dans son pays, c'est vraiment la vérité. Avant de reconnaître quelqu'un, dans tous les pays c'est la même chose, les Américains ont le même problème, il faut vraiment qu'on aille dehors et qu'on revienne vincitor, comme on dit dans Aïda, revient vers vainqueur, c'est vraiment vrai. Tant que vous n'avez pas fait vos preuves à l'étranger ou sur d'autres scènes que celles de la France, bon, je ne dis pas qu'on ne reconnaît pas vos qualités, mais enfin, bon, il est chez nous, ah ben oui, français, bon ben, c'est difficile, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'on est dur avec les nôtres, on est plus sévère, ouais. Mais il est vrai, par exemple, je me souviens quand j'ai débuté, donc mes débuts à l'opéra, il y a longtemps, dans Lohengrin, il y a un critique qui a écrit « Cette jeune chanteuse a une belle voix, certes, mais n'est pas et ne sera jamais wagnérienne. » 7 ans après, manque de peau, j'étais à Bayreuth. Et ce même critique a écrit « On ne peut pas rêver une Sieglinde mieux chantante, mieux agissante, plus extraordinaire que... » Alors, bon, bien sûr, quand on est jeune, ça aurait pu me faire... Ça m'a fait de la peine, d'ailleurs, quand il a dit ça. Mais j'aurais pu me poser des questions, me disant « Bon, est-ce que je dois chanter Wagner ou pas ?» Mais au fond, bon... il faut aller son chemin et puis les choses se décantent et se mettent à leur place.
Vous avez quand même dû vous battre un moment. Il y a ce foutu public qui vous a détesté.
Il faut se battre.
Il y a quand même c'est
mais comme sensé de... ça, c'est pas le public, c'est une cabale. C'est pas.
On peut en venir un peu, en reparler un petit peu parce que.
Vous dites, mais vraiment, est-ce que c'est tellement intéressant?
Oui, parce que ça montre malgré tout que ceux qui croient aimer la musique.
Mais oui, mais voilà, c'est ça. Ce sont des petits groupuscules, si vous voulez, qui, par exemple, disons, ils aiment Madame X. Bravo, pourquoi pas, hein. Bon, si vous aimez Madame X, vous allez l'entendre, vous l'applaudissez, vous lui envoyez des fleurs, vous êtes content, très bien. Mais si Madame Y vient chanter, on n'est pas content parce que ce n'est pas Madame X qui chante, alors on va siffler Madame Y. Et c'est comme ça que ça se passe. Et moi, je sur le moment, bon, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal, bien sûr, parce que je ne savais pas d'où ça venait, je ne comprenais
téléphone
pas.
Anonyme, téléphone commande anonyme,
commande anonyme, enfin, c'était vraiment ridicule. Mais ils m'ont eu, parce que ça a duré pendant 2 ou 3 ans, où on me téléphonait de temps en temps, « Ah, on vous aura, on vous attend, on... » Au bout d'un moment, vous vous dites, mais quand même, d'abord ça vous touche, on se dit, mais qu'est-ce que c'est, qui sait, pourquoi? Et ce que j'essayais de leur dire au téléphone, m'y raccrocher tout de suite, je dis, mais écoutez, si vous ne m'aimez pas, je peux le comprendre parfaitement bien. Moi, il y a des jours, je me déteste, alors pourquoi vous en feriez pas autant? Mais ne venez pas me voir. Qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi aller voir quelqu'un si on l'aime pas? Mais ce sont des groupes, ce sont des petits groupes, je vous dis, qui se manifestent. Mais c'est pas tout le public, quand on dit tout le public, ça c'est faux. Parce que quand ils ont essayé, par exemple, pour Parsifal, pour la série des Parsifal, mais là le public les a envoyés paître, applaudi, donc ils n'ont pas pu y arriver. Mais bon, ils ont attendu patiemment, et le jour où j'étais pas en forme, où j'étais vraiment, où j'aurais dû annuler, mais comme je suis une idiote d'honnête, que je me disais, bon, je chante pas beaucoup à Paris, je peux pas annuler, c'est embêtant, je crois penser que ça allait mieux. Là, ils m'ont pas raté. Mais remarquez, comme moi je suis une éternelle positive, enfin, optimiste, ça a été un mal pour un bien, parce que ça m'a... C'est vrai que j'étais pas en forme, je passais par de mauvais moments personnels, dans ma vie privée, je ne travaillais plus, je menais une vie de patachon, je me soignais pas, bon. Ça m'a mis le nez dans mon... si je peux dire, m'exprimer ainsi, c'est que je me rappelle très bien, après cette fameuse soirée où on m'a hué, où je vais tout annuler la série... Je me suis dit, Crespin, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas en forme, tu ne travailles plus, tu ne t'occupes pas de ta voix, tu ne t'occupes pas de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'ai passé une nuit à pleurer, à me poser des questions. Et je me suis dit, bon, ma vieille, ou tu te remets en question et tu prends un an sabbatique et tu ne chantes plus et tu retravailles, ou tu t'arrêtes de chanter. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai été 8 mois sans chanter, j'ai retravaillé et j'avais une... Comment dirais-je? Un but, c'était de chanter Carmen au Met. Donc je me suis dit, ma vieille, tu te prépares pour ça. Je suis allé voir un professeur en Allemagne où j'allais toutes les semaines et qui m'a repris de A jusqu'à Z en me faisant mettre assise, les plier comme ça. Il me dit, respirez, chantez doucement. Et je lui dis, mais je ne peux pas respirer, je suis plié. Il me dit, si, vous allez pouvoir respirer. Enfin, des choses de technique extraordinaires. Et au bout de 10 mois après, j'étais à New York en train de chanter Carmen. Et je m'étais dit, si ça va, tu continues. Si tu ne peux plus chanter, tu t'arrêtes, puis j'en parle plus. Et bon, ben, ça m'a redonné une fin de carrière... honnête, enfin, je veux dire.
Qu'est-ce qui n'allait plus? Qu'est-ce qui était cassé, disons?
Ce qui était cassé, c'est que j'avais divorcé. Pour divorcer, je me suis créé un amour qui n'était pas possible, avec un homme qui était impossible, et je me détruisais moi-même. Je me détruisais, ça m'a pris 4 ou 5 ans, ça m'a un moment, une voix pas se casser, parce qu'elle n'était pas totalement cassée, puisqu'elle est revenue. Mais je me négligeais, je ne travaillais plus, j'étais hors de me... complètement désaxé. Ça m'a coûté une psychothérapie, qui m'a fait le plus grand bien, cela dit. Donc au fond, quand on se retourne, c'est ce qu'on devrait pouvoir se dire quand on est en face d'un problème, d'une chose à supérer, à dépasser. On devrait se dire, imagine-toi dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, tu te retourneras et tu diras, oh là là, c'était pour ça que je voulais mourir quand même, faut pas pousser.
De tes chansons, et puisque l'on te dit de répondre, réponds.
Tra-la-la-la-la-la, mon sacré, je le garde, je le garde bien. Tra-la-la-la-la-la, j'en aime l'autre mort, en disant que je l'aime.
Carmen, incarnée par Régine Crespin, que nous retrouverons demain pour la deuxième partie de cette mémoire retrouvée que François Castan lui avait consacrée en juillet 1995. Vous pouvez réécouter cette archive sur le site francemusique.fr à la page des trésors de France Musique. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Béatrice Trichet pour la réalisation, avec Maïwenn Le Géant à la technique, en collaboration avec les documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.